autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Anthony Bellard à la réalisation pour interroger les libellules aujourd'hui et tenter de voir le monde à travers les immenses yeux de ces gracieuses demoiselles dont l'accouplement dans les airs est au moins aussi spectaculaire que la métamorphose. Comment ces insectes, nés dans la vase, au départ franchement monstrueux, se transforment en élégantes voltigeuses? Est-ce cette métamorphose, ce petit miracle de l'évolution, qui a fasciné notre invité, le philosophe Alain Cugnot, qui est aussi entomologiste et ornithologue, grand amoureux des libellules, auquel il a déjà consacré deux ouvrages, La libellule et le philosophe et Ma vie de libellule, avec le photographe Daniel Magnien, n'hésitant pas à se mettre dans la peau de ces étranges créatures volantes autour de la question « Pourquoi courir après les libellules quand on est philosophe ?» Bienvenue. Bonjour Alain Cugnot.
Bonjour.
Merci d'être venu partager la fascination que le philosophe que vous êtes a pour les libellules, ces étranges créatures qui vous font en quelque sorte mener une double vie, une triple vie d'enseignant de philosophie et de philosophe, donc très engagé dans la réflexion sur la justice pénale, mais aussi d'entomologiste, pourchasseur d'odonates. C'est le nom scientifique de ces étranges et élégantes créatures volantes auxquelles vous avez consacré, moi j'ai dit deux ouvrages, Alain Cugnot, mais vous me corrigez déjà, il y en a eu plus que ça.
En réalité, il y en a trois. Il y en a un qui s'appelle Libellule et qui est illustré par des aquarelles de Vanessa Damiante chez Klinksic.
Et il y a donc aussi La Libellule et le Philosophe, et puis tout récemment ce magnifique album que j'ai sous les yeux, paru aux éditions de La Salamandre, Ma vie de libellule, carrément, avec le photographe Daniel Magnien, dans lequel vous n'hésitez pas, Alain Cugnot, à vous mettre dans la peau d'une libellule. Pourquoi courir après les libellules quand on est philosophe?
Eh bien, il faut bien courir après quelque chose. Mmh. Je pense que c'est ça l'origine. Et que nous ne pouvons pas vivre si nous ne nous attendons pas à voir quelque chose qui nous satisfasse. Et donc, il faut commencer par tomber amoureux. Et une fois qu'on est tombé amoureux, on se dit, vais-je la voir? Point d'interrogation. Et là, eh bien, vous choisissez, quand vous avez la fibre naturaliste, vous choisissez un groupe d'animaux. Avec plusieurs essais, plusieurs tentatives, et au bout d'un certain nombre de ces tentatives, vous vous apercevez qu'il y a un animal qui correspond parfaitement à ce que vous attendiez, un animal qui est devenu pour vous l'objet même de toute rencontre possible. Et ça a été les libellules.
Mais pourquoi les libellules représentent-elles justement cet animal objet de toutes les rencontres possibles?
Je pense d'abord qu'il y a chez elles un style très particulier et que, alors qu'on peut confondre certains insectes les uns avec les autres, on ne se trompe jamais sur la perception d'une libellule. On voit une libellule, on sait que c'est une libellule.
Même quand on n'est pas spécialiste.
Même quand on n'est pas spécialiste. Alors qu'il y a quand même à peu près 90 espèces de libellules en France, il y a deux grandes manières d'être une libellule, soit une demoiselle qui ressemble un peu plus à un papillon, soit une vraie libellule. Et dans ce surgissement, eh bien, se montre finalement un accord, une harmonie avec tout ce que vous espérez. Voilà, je ne sais pas le dire autrement, c'est un peu circulaire. Hein,
c'est magnifique, c'est aussi beau qu'une libellule quand on vous écoute, Alain Cugnot.
C'est vraiment cette envie que nous avons de rencontrer un don qui nous est fait avec une générosité sans pareil.
Ce don de la nature. Hein. Autour de la question, pourquoi courir après les libellules? Donc, quand on est philosophe, après nous avoir donné votre réponse, je propose maintenant de suivre quelques pistes de réponses sonores et vrombissantes dans le mix Jolie Petite Libellule d'Anthony Bellard.
La jolie petite libellule pour étonner.
Les libellules sont ce que l'on pourrait qualifier des citoyennes du monde, car elles sont présentes sur tous les continents grâce à leur capacité de vol impressionnante.
Dans les mines de charbon, dans l'ambre, on trouve des libellules qui ont une envergure d'ailes de plus de 50 cm, donc des libellules géantes.
300 millions d'années d'évolution ont peaufiné leur anatomie de manière si parfaite qu'elles peuvent ingérer n'importe quel insecte. Mouches, guêpes, papillons, sans oublier leurs propres congénères.
Oh là là, oh là là, qu'elle est mignonne.
Sous toutes les latitudes, on trouve des libellules, des petites, des grosses, celles qu'on appelle aussi les demoiselles, qui sont toutes fines.
Les petites libellules, ou zygoptères, volent avec prudence et ménagent leurs effets. Tout en souplesse et avec grâce, leur mouvement évoque un ballet en apesanteur.
Ces insectes extraordinaires, à la pointe de la technologie, ont un système à l'intérieur de leur corps qui leur permet de résister aux accélérations fulgurantes.
À l'inverse, les grosses libellules, ou anisoptères, font penser à des avions de chasse en patrouille, survolant leur territoire à plus de 50 km/h. Lorsque le vent les porte, elles peuvent atteindre des vitesses dépassant les 130 km/h.
Elles ont également une vision en fait à 360 degrés.
Mais les parties les plus remarquables du corps des libellules sont leurs deux paires d'ailes.
Et ces quatre ailes sont pratiquement indépendantes, ce qui leur permet de faire du vol stationnaire, de voler à reculons.
Leur vitesse et leur endurance permettent aux libellules d'investir rapidement de nouveaux territoires. Il existe sans doute des centaines, voire des milliers de libellules que les scientifiques n'ont pas encore répertoriées.
Pour vous donner un ordre d'idée, ce serait autour de 6000 espèces de libellules au monde, voire 7000 parce qu'on n'a pas encore tout découvert.
Alain Cugnot, elles sont loin d'avoir livré tous leurs secrets. Les libellules, de nombreuses espèces restent encore à découvrir. Vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre ?
Oui, bien sûr. Il est certain que toutes les espèces de libellules n'ont pas été répertoriées. D'abord parce qu'il y a des espèces qui se ressemblent, qui sont différentes et qui se ressemblent tellement qu'on ne peut pas voir la différence. Il faut des tests ADN pour s'apercevoir qu'il y a plusieurs espèces. Et ensuite parce que le monde est très vaste et qu'il n'est pas aussi exploré qu'on pourrait croire.
Et que les libellules sont partout sur Terre.
Les libellules sont partout. Sauf peut-être, sûrement, on ne trouvera pas de libellules ni au pôle Nord, ni au pôle Sud.
Oui, là c'est trop glacé, il fait trop froid pour les libellules.
Certainement trop froid.
Ce sont parmi les plus anciens insectes sur Terre. Hein.
Oui,
on parlait de 300 millions d'années.
Oui, elles sont très anciennes. Elles étaient énormes, comme il vient d'être rappelé, mais elles se sont perfectionnées, elles ne sont pas restées ces énormes machines, elles sont devenues beaucoup plus petites et beaucoup plus perfectionnées.
Très, très complexe, hein, leur anatomie est étonnante, on a entendu parler de leurs ailes incroyables, qui inspirent d'ailleurs aussi aujourd'hui les techniciens, hein, les drones n'ont rien à envier aux libellules.
Les techniciens ont toujours été fascinés par les performances des animaux. Et donc, ça n'est pas étonnant. C'était rappelé tout à l'heure, c'est le seul insecte chez qui les ailes sont reliées indépendamment les unes des autres à des muscles spécifiques. Ce n'est pas le cas des mouches, par exemple. Hein. C'est le thorax qui vibre et qui fait vibrer les mouches. Qui fait vibrer les ailes des mouches, pardon. Alors que chez la libellule, c'est vraiment d'une manière tout à fait indépendante que les ailes sont manœuvrées. Ça, c'est extraordinaire.
C'est ce qui leur permet quoi de...
Ça leur permet de tout faire, le vol stationnaire, de voler à reculons, d'avoir de très puissantes accélérations. C'est tout à fait étonnant.
Et miracle de l'évolution, leurs ailes, leur complexité, mais aussi leur métamorphose. C'est quand même ça qui est fascinant et qui doit, j'imagine, fasciner le philosophe que vous êtes.
Oui, c'est peut-être ce qu'il y a de plus fascinant. C'est l'immense contraste entre la larve de libellule...
Qui est effrayante, elle est monstrueuse.
Qui est effrayante,
dans la
on dirait une machine de guerre. C'est une machine de guerre d'ailleurs. N'importe quel spécialiste des libellules vous dira « Mais c'est parce que vous ne les avez pas regardées d'assez près, c'est parce que vous ne vous êtes pas intéressé à elles que vous dites qu'elles sont laides. » Et ils ont raison. Au bout d'un moment, vous vous apercevez que oui, il y a des formes tout à fait extraordinaires.
Ne dites pas qu'elles sont beaux, ces aliens. Ils sont effrayants.
Que le premier contact, c'est de la répulsion. C'est vraiment
une
bestiole moche, qui vit dans la vase, qui a inventé des moyens de se déplacer. Pas toutes, mais certaines se déplacent en expulsant de l'eau par leur anus. C'est pas d'une élégance folle, enfin, c'est pas...
C'est le moins qu'on puisse dire. On est bien loin de ces demoiselles agiles et graciles.
Voilà,
c'est ça qui est
ce contraste formidable avec la libellule adulte, avec l'imago, qui au contraire est un phénomène incontestable d'élégance et de beauté quand même.
Oui, magnifique beauté. Vous dites, je rêvais de voler dans ma vie de libellule. Vous mettez dans la peau d'une libellule. Je rêvais de voler quand j'étais si moche dans la vase et que j'ai passé tout mon enfance dans l'eau.
Oui. Alors, vous savez, l'origine du premier livre sur les libellules, la libellule et le philosophe, le premier livre que j'ai écrit, c'est une soirée passée chez Jean-Claude Guillebaud, à qui je raconte la vie d'une libellule. Et le lendemain, il me téléphone pour me dire « Mais tu devrais écrire un livre ». Mais l'origine, le point de départ, c'est qu'il avait été émerveillé par ce phénomène de cette métamorphose absolument extraordinaire. Et je lui dis « Mais méfie-toi, tu crois au paradis, les larves de libellules aussi. Et un beau jour, ça se réalise.
On
et elles s'aperçoivent qu'elles sont belles, elles s'aperçoivent qu'elles volent, elles découvrent la sexualité. » Et elles se disent, mais c'était donc vrai, et elles meurent.
Autour de la question, pourquoi courir après les libellules quand on est philosophe? En anglais, libellule se dit dragonfly, et c'est Fleetwood Mac qui les chante, les libellules, dragonfly sur RFI. Sur RFI, Dragonfly, autour de la question pourquoi courir après les libellules quand on est philosophe, comme notre invité Alain Cugnot. Vous venez de publier avec le photographe Daniel Magnin Ma vie de libellule, superbe ouvrage dans lequel vous vous mettez dans la peau d'une libellule. À ce sujet, nouvelle question posée par Carole Châtelain du mensuel Science et Avenir.
Comment vous placez-vous par rapport à l'expérience qui a été menée en Grande-Bretagne par cet universitaire britannique qui s'appelle Charles Foster et qui a écrit Dans la peau d'une bête, dans laquelle il a réellement tenté de se mettre dans la peau d'animaux, notamment celle d'un putois ou celle d'un renard, et où il a passé de très longues semaines à creuser des terriers et à vivre à quatre pattes pour essayer de comprendre effectivement ce que c'est que d'être un animal.
Alain Cugnot, votre démarche, vous ne vous êtes pas mis dans la peau d'une libellule à ce point-là quand même?
En réalité, je ne me suis jamais mis dans la peau d'une libellule. En revanche, ce qui est vrai, c'est que lorsque j'étais enfant, comme tous les enfants, je n'étais jamais moi-même. Mais j'étais un animal. Toujours, je pense, toujours un vertébré. Un mammifère. Ou
vous vous imaginez un animal, vous choisissiez un animal.
Et je devenais cet animal. Je l'imitais. C'est vraiment ce que Deleuze appelle le devenir animal. Hein. On peut devenir un animal, mais à condition quand même qu'il y ait une ressemblance assez forte. Et il est beaucoup plus facile d'entrer dans la peau d'un putois, d'un furet, d'une loutre. Mon Dieu, que longtemps j'ai été une loutre. Mais je crois que le premier animal que j'ai été, c'était un zèbre. Et vraiment, je crois que ça appartient au monde de l'enfance et que c'est une des possibilités de l'enfance que d'entrer ainsi dans la peau de toute autre chose que soi-même.
Et c'est ce qui peut faire réfléchir le grand enfant qu'on devient en devenant philosophe.
Ça laisse des traces. Ça laisse des traces. En revanche, je n'ai jamais pu me mettre dans la peau d'une libellule et je n'ai jamais eu envie de me mettre dans la peau d'une libellule. Cette première personne utilisée, c'est un jeu de langage. C'est l'une des possibilités du langage que de parler à la place d'un autre. Et les conditions pour parler à la place d'un autre sont extrêmement rigoureuses. Il ne faut jamais parler à sa place. Il faut parler pour lui, il faut parler depuis lui, mais ne pas croire qu'on est devenu lui, justement. Alors là, il est possible d'aller chercher dans les ressources du langage quelque chose qui puisse ressembler à une écriture, enfin, qu'écrirait une libellule.
Qu'écrirait une libellule ? Alors justement, votre libellule, vous la faites citer Maître Eckhart, moine allemand du XIVe siècle, une libellule philosophe donc, la vie est sans pourquoi.
Voilà.
La vie est sans pourquoi.
La vie est sans pourquoi. Et ça, c'est vraiment prodigieux comme proposition. Et Maître Eckhart dit à qui demanderait à la vie, mais pourquoi vis-tu ? Pendant mille ans, elle répondrait, je vis parce que je vis. Or ça, la libellule le manifeste d'une manière extrêmement, extrêmement claire. Mais pourquoi es-tu une libellule ? Alors on peut aller chercher toutes les raisons, on peut essayer de montrer que ce sont des réponses à des questions posées par l'environnement, ou on peut essayer. On n'atteint absolument pas ce qui est devant nous, à savoir cet animal coloré, avec une silhouette tellement particulière, un style tellement particulier. Et donc la mise en œuvre de la vie de la libellule, c'est bien la mise en œuvre de la vie. Dès lors, on va trouver chez les philosophes des références à cela. Et je pense qu'il est tout à fait légitime de dire, en effet, qu'une libellule est une citation de Maître Eckhart. Mais pour en revenir au début de la question, ce jeu tenu par la libellule, c'est aussi une distance ironique qui permet d'éviter ce que serait la faute majeure de l'anthropomorphisme.
Oui, c'est ça, ne pas se prendre
pour une libellule.
Pour une libellule.
Et surtout ne pas, c'est vraiment l'enfance de l'art, ne pas croire que les libellules ont des sentiments qui ressembleraient aux nôtres.
Non, s'inspirer des libellules, parler pour elles, et tenir à la fois le langage quand même de l'entomologiste, parce que vous les connaissez bien, ces libellules, et celui du philosophe.
C'est en quelque sorte leur donner la parole, leur donner une parole qu'elles n'ont pas. Simplement en les identifiant, simplement en les nommant, on commence ce travail de les faire entrer dans notre univers à nous, qui est de part en part un univers langagier.
Quelle est votre libellule préférée ? Vous en avez une, Alain Cureau ?
J'ai une libellule préférée. Elle s'appelle Ophiogonfus cecilia. Parce que le 7 juillet dernier, j'ai fait la première observation en région Poitou-Charentes de cette libellule. Normalement, elle n'était pas du tout là. Elle est sur la Loire, elle est en Europe de l'Est. Et puis elle est venue.
C'est lié au changement climatique ou elle est vraiment venue vous faire signe ?
Je ne pense pas que ce soit lié au changement climatique, étant donné qu'elle vient plutôt de régions plus froides. Mais je pense que c'est un pur hasard. Elle s'est probablement perdue. Mais la rencontrer a été pour moi, d'abord, elle est très belle, mais ça a été un cadeau inouï.
Autour de la question « Pourquoi courir après les libellules quand on est philosophe ?» Nous allons continuer de nous interroger dans 3 minutes. On se retrouve juste après le flash d'info avec vous, Alain Cugnot, au bord de la mare et même jusqu'au Japon pour observer cette fois les accouplements aériens et magnifiques des libellules. À tout de suite.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie autour de la question pourquoi courir après les libellules quand on est philosophe, comme notre invité Alain Cugnot, philosophe et entomologiste, auteur de Ma vie de libellule aux éditions La Salamandre. Pourquoi et comment se mettre dans la peau d'une libellule, qu'on soit grand ou petit philosophe, histoire peut-être de voir le monde autrement, avec d'autres yeux, comme dans cet extrait de Princesse Libellule, le dessin animé signé d'un maître du genre, Jacques-Rémy Girard.
C'est vous qui venez voir la princesse Libellule? C'est justement son jour de sortie, aujourd'hui.
Mais dis donc, qu'est-ce que c'est cette sale bête là?
Cette sale bête? C'est justement la princesse Libellule.
Ça? Mais c'est pas une princesse, c'est un monstre.
Mais dis donc, tu te moques de nous, Zina? On était venu voir une vraie libellule, hein?
Attendez, les enfants, un peu de patience. Regardez bien cette larve qui sort de l'eau. Elle va vous offrir un spectacle étonnant. La métamorphose de la libellule. Quand elle devient libellule, c'est un peu comme si elle mettait sa robe de mariée.
Qu'elle est belle!
Si c'est pas malheureux, la jolie libellule vient de passer plusieurs années dans la peau d'un monstre repoussant. Et maintenant qu'elle est devenue princesse, c'est pour vivre les derniers jours de sa vie.
Oui, mais des jours heureux.
Le paradis existe pour les libellules, vous nous l'aviez dit en première partie, Alain Cugnot, mais il ne dure pas longtemps.
Il ne dure pas longtemps, il dure quelques semaines.
Mais alors avec une intensité.
Une intensité absolument extraordinaire.
C'est dans sa magnifique forme de libellule qu'elle va vivre ses amours, qui là aussi sont fascinants. Les amours des libellules, leur accouplement aérien, parfois féroce aussi.
Mais oui, enfin, c'est un accouplement extrêmement complexe. Pardon. C'est un accouplement très très complexe parce que les pièces sexuelles du mâle sont situées à l'extrémité de l'abdomen, mais il dépose son sperme sur le deuxième segment, c'est-à-dire près du thorax. Ensuite, en général, ça s'est déjà produit, il a pris la femelle par une pince qui est au bout de son abdomen, et ils volent l'un derrière l'autre en tandem. La femelle replie son abdomen et vient le plaquer contre le deuxième segment. Ce qui fait qu'à ce moment-là, le couple a une forme de cœur.
Le cœur des libellules.
Le cœur des libellules. C'est très beau. C'est, comment dire, c'est très calme. Ça n'a rien d'obscène. Il n'y a pas de ces mouvements spasmodiques tellement caractéristiques de la sexualité. C'est au contraire un étrange attelage. Les libellules volant ainsi en cœur, pouvant se poser également.
Vous citez là le philosophe Spinoza dans la peau d'une libellule. J'ai vu et j'ai senti que j'étais éternel au moment de cet accouplement.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où nous percevons que la vie manipule des enjeux ou trimballe des enjeux infiniment plus importants qu'on ne pourrait le croire. Et que ces moments-là, ce sont des moments à la fois inestimable et extrêmement exigeant. Je pense que la beauté des libellules et que l'immense chose qui se passe dans la sexualité sont de ces moments où le quotidien, le banal, laisse apparaître toute autre chose. Et ce toute autre chose, c'est ce que nous cherchons.
Voilà pourquoi vous passez votre vie, si j'ose dire, de philosophe à observer les libellules. Enfin...
Voilà pourquoi, en effet.
Mais cet accouplement qui effectivement, des libellules en cœur, qui est si fascinant, il cache aussi une sexualité parfois féroce des libellules. À ce sujet, nouvel éclairage. En forme de question du biologiste Jean-Baptiste de Panafieux, auteur de « Séduire comme une biche ».
Il y a une étude toute récente sur la séduction chez les libellules, ou plutôt sur le harcèlement chez les libellules. Et il me semble que dans une espèce observée en Suisse, la libellule femelle peut se laisser tomber à terre comme si elle était morte pour éviter les assauts d'un mâle.
Connaissez-vous cette stratégie anti-harcèlement de la libellule?
Je ne connaissais pas.
Mais ils sont parfois féroces, leurs amours. Parce que nous n'avons pas dit que la libellule, les libellules sont des prédateurs, des prédatrices. Et en amour aussi, elles peuvent même déguster leurs congénères.
Les mâles sont extrêmement violents entre eux. Au point qu'on ne peut pas connaître une population de libellules simplement en voyant les couples reproducteurs. Les mâles font tout ce qu'ils peuvent pour chasser les autres mâles, qui s'en vont. Les plus vaillants, je suppose, et les plus culottés, les plus hardis.
Donc le cœur avec une autre libellule n'est pas donné à tous les mâles.
Et il n'est pas donné à tous les mâles. Et cette violence, elle ne va jamais, à ma connaissance, hein, les libellules peuvent s'entre-dévorer, mais l'agression est purement virtuelle. Les libellules se poursuivent. Ensuite, c'est vrai, il s'agit de conquérir une femelle. Et là, c'est plutôt les mâles, enfin ça dépend des espèces, mais c'est plutôt les mâles qui sont dans la séduction, qui ouvrent et referment leurs ailes chez les hégoptères, chez les caloptérix en particulier, pour attirer une femelle. Et les femelles sont réticentes, dirons-nous. Ça c'est vrai, hein, je pense que l'histoire de la libellule qui fait la morte pour qu'on ne la harcèle pas, les femelles de libellule ne sont pas en quête de mâles. Mais enfin, finalement, elles disent oui.
Finalement, elles disent oui, mais elles disent aussi que la vie est immense et pleine de dangers, parce qu'elles ne vont pas vivre longtemps, les libellules, et parce que les œufs, eux aussi, doivent lutter contre la mort. Enfin, la vie d'une libellule, elle est sacrément violente aussi.
La vie d'une libellule est violente.
Elles-mêmes sont violentes.
Elles-mêmes sont violentes, oui, certainement, oui. Enfin, ce sont des prédateurs. Mmh. Et les œufs sont pondus, selon les espèces, d'une manière ou d'une autre, parfois insérés dans des végétaux, parfois mis sous des feuilles immergées. Mais enfin, en général, le but, c'est que les œufs puissent rejoindre, enfin, qu'à l'éclosion, pardon, les petites larves puissent se retrouver dans l'eau ou rejoindre l'eau.
Donc ces cycles de vie, là encore. L'entomologiste que vous êtes aime bien observer les libellules. C'est aussi, j'imagine, parce que pour les observer, vous les photographiez à l'incugno et on n'a pas besoin de les tuer pour les observer.
On n'a pas besoin de les tuer. Ça, c'est un immense avantage des libellules. C'est un des rares insectes que l'on peut vraiment identifier jusqu'à l'espèce et même souvent à la sous-espèce uniquement sur un cliché. Alors que vous ne pouvez pas faire ça avec la plupart des autres insectes, il faut constituer une collection et il faut regarder à la loupe binoculaire comment sont en particulier les pièces sexuelles pour arriver à identifier. Là, les libellules sont tellement colorées, elles ont tellement chacune une signature particulière que la simple photographie suffit. Ça, c'est énorme, c'est gigantesque.
Et elles se laissent aisément photographier, approcher par l'homme. Il y a des heures pour les observer.
Alors, elles se laissent assez facilement approcher. Ça varie beaucoup d'une espèce à une autre. Mais en général, ce n'est pas si difficile que ça. Et elles sont observables. Ça aussi, c'est très confortable. Elles sont observables aux heures chaudes de la journée, c'est-à-dire à peu près entre 10h du matin et 17h en été. Enfin, canoniquement, entre le mois de mai et le mois d'octobre, mais on peut en trouver encore en novembre et même en décembre. Mais voilà, c'est les heures les plus chaudes, dans la partie de l'année la plus ensoleillée, évidemment.
Et toujours près d'une source d'eau.
En général, près des sources d'eau. On peut en trouver très loin de l'eau, hein. On peut en trouver en particulier chez les grandes libellules, elles se baladent pas mal pour trouver leur nourriture. Mais en règle générale, c'est quand même l'eau qui est le lieu où on va les trouver.
Leur vol vous fascine aussi. Il fascine beaucoup aujourd'hui tous ceux qui conçoivent les drones, par exemple. On aimerait bien copier véritablement le vol,
oui,
des libellules.
On aimerait bien copier les libellules et puis simplement les observer en train de voler. C'est un immense plaisir. C'est un immense plaisir parce que on ne sait jamais ce qu'elles vont faire. Elles sont imprévisibles. Alors, il y en a qui patrouillent, il y en a qui inspectent les plantes pour voir s'il y a des pucerons dessus avec une lenteur et une précision d'hélicoptère. Il y en a qui volent à mi-hauteur, à peu près à hauteur d'homme. Il y en a qui volent très haut. Enfin, c'est extrêmement diversifié, extrêmement spectaculaire et donc extrêmement satisfaisant.
Pour le philosophe comme pour l'entomologiste que vous êtes, nouvelle question pour vous posée par Antoine Vistrage, qui est lui spécialiste des fourmis.
Moi, je me demandais souvent quel était le rôle des ocelles qu'on retrouve chez certaines fourmis et qui sont énormes chez les libellules. Alors, est-ce que c'est un lien avec leur capacité d'acrobate aérien ou je ne sais pas, ouais. Donc, les ocelles qui sont ces petits yeux que vous avez sur la partie supérieure du crâne. Ce ne sont pas des yeux qui sont capables de résoudre une image comme les yeux principaux devant, mais ça peut détecter la luminosité dans trois directions différentes de l'espace.
Avez-vous une réponse sur le rôle de ces ocelles des libellules ?
Je n'ai pas de réponse. Effectivement, il y a trois ocelles sur le sommet de la tête des libellules, totalement indépendamment des yeux, mais je ne sais pas à quoi ça sert.
Les yeux des libellules sont fascinants aussi, elles ont une vision déjà à 360 degrés, hein, c'est ça ?
Oui, elles voient d'une manière extraordinaire, avec beaucoup de précision, et un champ effectivement complet. Elles sont des êtres tout en vision. Enfin, la vue est certainement, chez les libellules, le sens le plus développé.
Elles en ont d'autres, des sens, les libellules ?
Elles sont sourdes. Elles doivent sentir les vibrations, mais elles sont sourdes. Le goût, sûrement. L'odorat, je ne pense pas, encore que je ne sais pas très bien à quoi servent les antennes, par exemple. Mais vraiment, ce sont des êtres de la visibilité.
Des êtres de la visibilité, ce qui les rapproche un peu de nous humains.
Ce qui fait que nous vivons quand même un peu, en gros, dans le même monde.
Et oui, c'est ça que j'aimerais vous demander, puisque vous essayez quand même de vous mettre dans la peau d'une libellule. Comment est-ce qu'elle voit ? Elle voit déjà le monde à 360 degrés, donc pas comme nous, mais on vit quand même dans le même monde.
On vit quand même dans le même monde, puisque nous réagissons, nous aussi, aux stimuli visuels plutôt qu'aux autres. Hein. Nous sommes très peu olfactifs, vraiment auditifs, mais vraiment c'est aussi le sens de la vue. Et chez les libellules, à la fois, elles vivent dans le même monde que le nôtre, elles doivent percevoir des aspects que nous ne percevons pas. Et peut-être ce qu'il y a aussi de très fascinant chez elles, c'est qu'elles, quand on photographie une libellule, donc on la voit de très près, elle ne ressemble pas tellement à ce qu'on a vu de loin. Elles sont, par exemple, leur aspect prédateur est bien plus visible sur une photographie que ce qu'on peut en voir quand on les voit passer.
Mais quand on les voit passer, on voit des gracieuses, gracieuses.
Quelque chose de très gracieux, de très rapide, de très élégant.
Et quand on les photographie, qu'on les regarde de près ?
Eh bien, on change d'animal en quelque sorte. On voit apparaître quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et on se dit, eh bien c'est donc ça. Enfin,
C'est-à-dire ce côté prédateur, capable de manger tous les insectes possibles et imaginables.
C'est le côté prédateur qui apparaît. Et aussi, comment dire, la question... Mais en quoi est-elle faite ? Est-ce que c'est un être naturel ou est-ce que c'est un être artificiel ? Il y a des aspects de la libellule qui donnent l'impression...
Quoi, par exemple ?
D'abord, les ailes. Les ailes, hein, en mica, dirait-on. Et même...
Mais qui brillent, enfin...
Ça brille. Il y a un reflet très, très spécial qui est donné par la surface de l'aile avec les nervures et le reflet du soleil sur les nervures elles-mêmes donne quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et également le thorax, chez beaucoup d'espèces, en particulier chez une grosse libellule, Crocotémis, qui vient d'Afrique. Le mâle a un thorax et un abdomen extrêmement rouge, mais la femelle est brune. Et quand on voit le thorax sur une photo, on dirait qu'elle est faite de toiles tendues, comme les avions de la guerre de 14-18. Vous voyez ? Là, on s'est dit, c'est un être naturel, c'est évident. Et en même temps, on dirait qu'il a été fabriqué.
Ouais, ces couleurs métalliques.
Et il y a la couleur métallique, il y a même la consistance de...
La dynamique elle-même.
Elle-même et la consistance du matériau.
Autour de la question pourquoi courir après les libellules, on commence à comprendre pourquoi. On écoute tout de suite la réponse en musique de Jean-Louis Murat sur RFI.
Être intelligent, si c'est être heureux, on a le QI du bon Dieu. Fatigué.
et les filles.
Le vol des libellules, signé Jean-Louis Murat sur RFI. Autour de la question « Pourquoi courir après les libellules ?» comme notre invité, le philosophe Alain Cugnot, s'il y a un pays où les libellules sont reines, bien plus que demoiselles, c'est au Japon. Depuis qu'un empereur, en montant sur une colline, a cru voir dans la forme de l'île de Hondo le dessin de la copulation de deux libellules, les libellules sont devenues des symboles du pays et les libellules rouges, symboles de l'automne, comme nous le racontait l'anthropologue et zoologue Éric Laurent, par téléphone depuis le Japon. Où il vit.
Les libellules rouges, en fait, c'est très présent dans le quotidien en automne. Comme vous savez, les saisons sont très marquées au Japon. D'abord, géographiquement, physiquement, on sent la différence qui vient de manière assez abrupte. Différence de température, différence dans l'air, en fait, on le sent très, très fort. Et les saisons sont marquées par des espèces végétales, par des phénomènes naturels, par des animaux. Et l'automne, notamment, a beaucoup de symboles, et la libellule rouge est un symbole de l'automne. Donc c'est une libellule qui est rouge, tout simplement, et qui s'appelle Akatombo, donc si on traduit littéralement, ça veut dire libellule rouge. Et vers septembre, quand les rizières sont jaunes, juste avant la moisson, il y a beaucoup de libellules qui apparaissent, et elles ont un vol qui est très bas, donc on les voit. Elles sont très présentes visuellement dans la campagne japonaise et elles sont un symbole très évident de l'automne avec d'autres espèces, comme certaines espèces de cigales, par exemple. Donc là, c'est quelque chose qui est très présent dans la campagne, on le connaît, puis alors c'est aussi présent dans la poésie, dans les haïkus. Donc quand on construit un haïku, il faut y mettre ce qu'on appelle un mot de saison. Alors le mot de saison, ça peut être une espèce végétale, une espèce animale ou bien un phénomène naturel. Et la libellule rouge est souvent reprise dans les haïkus d'automne en tant que mot de saison. Et aussi dans tout ce qui est pictural aussi. On voit beaucoup les libellules rouges, par exemple dans les peintures qui représentent les quatre saisons. C'est souvent la libellule rouge qui est utilisée pour représenter l'automne.
Au Japon, les libellules, Alain Cugnot, n'inspirent pas que les philosophes, elles inspirent aussi les poètes et les artistes.
Mais oui, oui, oui. Je savais ce lien entre le Japon et les libellules. Ce qui est étonnant, c'est que la libellule soit liée à l'automne, alors que chez nous, elle est tellement liée
au printemps ouais.
Et à l'été, et au plein été. Et, mais chose curieuse, nous avons, nous aussi, notre libellule rouge d'automne. Il y a une libellule, enfin un genre de libellule, qui s'appelle Sympetrum, dont les mâles sont rouges, et qui sont extrêmement nombreuses en automne, peut-être plus nombreuses en automne qu'en été. Curieuse chose quand même, hein, c'est que je ne saurais expliquer.
Alain Cugnot, est-ce que les libellules ont nourri aussi votre réflexion de philosophe? Et même question, est-ce que votre réflexion de philosophe nourrit votre observation entomologique des libellules?
Pas directement. Et même pendant une bonne partie de ma vie, il y a eu un conflit entre ma double vocation de philosophe et ma vocation de naturaliste. Quand j'étais enfant, j'étais absolument persuadé que je serais naturaliste. Ça ne faisait pas l'ombre d'un doute. Et puis je me suis aperçu que pour moi, la philosophie comptait davantage encore. Et j'ai donc essayé de mener les deux passions avec un sentiment de culpabilité.
Vous n'étiez pas assez naturaliste ou pas assez philosophe?
Voilà, non, ça... C'était pas sérieux quand j'avais des cours à préparer, des copies à corriger.
D'aller courir après les libellules
ou après les oiseaux. Non. Et souvent, j'ai pris la décision de ne plus... Voilà, je cessais d'être naturaliste. J'ai comme ça détruit plusieurs fois une documentation importante. En me disant, mais non, c'est pas sérieux, c'est des gamineries.
Or, vous faites ça tout à fait sérieusement. Hein. Vous êtes membre de plusieurs...
Mais bien sûr.
De la société française des odonates, membre aussi de la société de protection des insectes dans leur environnement. Vous faites ça très sérieusement.
Je me suis réconcilié avec moi-même, mais assez récemment, en me disant, mais non, les deux attitudes sont parfaitement légitimes. Et si elles ne s'influencent pas directement l'une l'autre, je pense qu'il y a dans la chasse aux libellules, enfin dans cette quête des libellules, une obligation de faire silence, d'évacuer toute pensée autre que ce que l'on est en train de regarder, qui est, à sa manière, une préparation à l'exercice de la pensée comme pensée philosophique.
Préparation à la méditation, une sorte de méditation, contemplation.
Une sorte de méditation, mais qui justement a comme caractéristique d'être entièrement extériorisé. C'est ce qu'on voit qui compte. Et d'une certaine façon, il faut s'absenter de ce que l'on voit pour pouvoir découvrir ce qu'on cherche. Et ça,
c'est une, oui, c'est presque une maxime philosophique.
Oui, oui, mais c'est une assaise, hein, de chercher à voir un animal avec une réponse qui sera négative ou qui sera positive, mais rien, absolument rien, il n'y a pas de contrat, hein, elles ne promettent pas de se montrer. Et il y a là quelque chose qui est comme un exercice d'attention. Or, l'attention joue un rôle déterminant dans l'exercice de la philosophie.
Quelle récompense, en tout cas quand on court après les libellules, quelle récompense, c'est l'émerveillement quand on
voit une espèce soit qu'on n'avait jamais vue, soit dont il est intéressant de constater la présence. C'est une très grande satisfaction.
Cette Cecilia dont vous nous avez parlé en première partie, que vous avez
Ophio Gonfus Cecilia, oui.
Ophio Gonfus Cecilia, que vous avez été observé dans un endroit inattendu.
Voilà, le 7 juillet dernier, j'ai fait la première observation de cette libellule pour la région du Limousin et du Poitou. Le Poitou-Charente, pardon. Charente-Limousine comprise, où je l'ai trouvée. Et vraiment, c'est une immense satisfaction. Ça n'apporte rien de vraiment important pour la science. En revanche, le don qui est fait à ce moment-là est absolument prodigieux. Enfin,
elle s'est laissée photographier, Cecilia, je l'appelle par son petit nom. Hein.
Très, très gentiment, elle s'est montrée, j'ai été très surpris. C'est une libellule facile à reconnaître de loin parce qu'elle est tricolore. Avec un
tricolore,
un thorax vert fluorescent et puis un abdomen noir et jaune. Elle est assez grande. Quand je l'ai vue, j'étais très étonné de la voir puisqu'elle ne devait pas être là. Et elle a eu la gentillesse de se poser et de se laisser photographier. C'était en quelque sorte la preuve que tout est possible.
Avec les libellules ou dans la vie ?
Dans la vie, dans l'existence, tout est possible.
On va terminer là-dessus. Merci infiniment, Alain Cugnot, d'être venu partager cette piste. Donc tout est possible, hein, dans la vie, comme avec les libellules, comme en philosophie. Toutes ces pistes donc d'inspiration, d'émerveillement entomologique et philosophique autour des libellules. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui est paru aux éditions de la Salamandre avec le photographe Daniel Magnien. Magnifique photo, Ma vie de libellule. Et citons aussi chez Albin Michel, La libellule et le philosophe. Vous revenez quand vous voulez nous parler libellule ou philosophie.
Merci, merci beaucoup. Et je voudrais dire un dernier mot sur le livre. Je l'ai offert à de vieux amis qui ont dit que le livre leur a énormément plu et ils ont dit, on voit l'amitié qui existe entre le photographe et le rédacteur des textes et ça m'a fait infiniment plaisir.
Et moi je rajouterais l'amitié avec les libellules.
Et l'amitié avec les libellules aussi, mais voilà.
Autour de la question sur internet, www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Au plaisir de vous retrouver demain, amis auditeurs, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses pour une émission hybride autour de la question « Pourquoi sommes-nous tous entrelacés des gènes aux super organismes ?» Nous découvrirons pourquoi l'évolution de la vie sur Terre est un job réalisé à plusieurs et en réseau. Merci pour votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert. À l'écoute de RFI, le prochain journal, c'est dans une trentaine de secondes.